Histoire qui m'a beaucoup touché et qui va, je pense, aussi beaucoup vous toucher. C'est Isabelle Haché qui nous en parlait dans la presse hier. Elle nous racontait l'histoire du petit Lucas et de sa mère Geneviève qui est au bout du fil. Bonjour Geneviève.
Bonjour Bernard.
Vous avez adopté donc Lucas. Racontez-nous.
C'est un petit coco qui vient de la Colombie qui a été adopté d'abord à l'international. C'est un petit coco qui a vécu beaucoup de choses en Colombie. Donc, c'est un enfant là, qui a été retrouvé à l'âge de 3 mois où il avait de multiples. Il était rachitisme. Il souffrait de malnutrition grave, était entre la vie et la mort. Donc, c'est un enfant qui a vécu quand même beaucoup de choses là, en Colombie, dont entre autres là, 2 déplacements là, de famille d'accueil là, en Colombie. Puis, finalement, c'est un enfant qui est arrivé ici au Québec avec un premier couple. Puis, ben, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on sait que c'est difficile, là, l'adoption, surtout avec un enfant qui a des troubles d'attachement sévères. Ben, c'est un enfant, dans le fond, qui s'est retrouvé au sein de la DPJ. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, nous, on l'a accueilli, là, alors qu'il avait 4 ans.
OK. Puis, lorsque vous avez décidé de l'adopter, vous étiez à ce moment-là à l'emploi de la DPJ.
Oui, tout à fait.
Et vous leur avez parlé de votre projet?
Ben, en fait, on a su que le petit coco était rendu dans un foyer de groupe, puis qu'il était admissible à l'adoption. Ça a été tout un casse-tête là, au niveau mental. Bon, on écoutait notre tête, on écoutait notre cœur, on savait comme pas trop vers quoi se pencher. Mmh. On avait déjà notre petit nid là, qui était fait avec notre grand garçon qu'on avait adopté à l'âge de 3 ans aussi. À un moment donné, c'est le cœur qui l'a emporté sur la tête. Et on a fait part, là, dans le fond, aux autorités, aux instances, là, qu'on serait prêt là, à le prendre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un enfant qui avait été proposé là, à travers le Québec, de ce que j'avais reçu comme information. Puis il n'y avait pas de postulant à l'adoption qui pouvait avoir le bagage puis qui démontrait un intérêt là, pour avoir un enfant avec les multiples diagnostics là, qu'il avait déjà en sa possession à un si petit âge.
D'accord. Et donc, lorsqu'ils ont su que vous souhaitiez l'adopter, la DPJ était très très heureuse là. Ils étaient très contents que vous posiez ce geste-là là. Ils vous ont encouragé à le faire.
Ils m'ont remercié. Merci. Plusieurs fois, on m'a dit c'est quelque chose. On vous abandonnera pas. Faites-moi signe. On va vous aider. On va être là pour vous. C'est ce qui s'est passé là au moment où on l'a adopté. Le dossier avait été transféré dans un autre centre jeunesse pour l'évaluation. Ça, je trouve ça important quand même de le préciser. Fait qu'on avait été évalué quand même impartialement dans un autre centre jeunesse.
Puis vous étiez justement à l'emploi du CI3S de Lanaudière à ce moment-là.
Tout à fait. À l'époque, c'était les centres jeunesse de Lanaudière.
Quand vous nous dites il est multipoqué, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est un petit coco qui est arrivé ici au Québec. C'est sûr que, tu sais, bon, tout ce que ça comporte, l'adoption, c'est un petit coco qui avait un trouble d'acquisition de la coordination. Il y avait un déficit de l'attention avec hyperactivité, impulsivité, trouble d'opposition, provocation, tout le kit là, qui va avec ça. C'est un petit coco qui avait une hypothèse d'alcoolo-fœtale parce qu'on savait là, que la mère biologique avait déjà consommé de l'alcool. C'est un enfant qui était, quand il est arrivé chez moi, on avait déjà diagnostiqué un trouble sévère de l'attachement. Puis par la suite, il y a eu un diagnostic voilà 2 ans de syndrome Jules de la Tourette, qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses aussi. Des troubles de modulation sensorielle, troubles d'apprentissage et bon.
Et donc, lorsque vous l'adoptez, ça va être difficile.
Oui. Il y a une différence entre on sait dans quoi qu'on s'embarque, on a le bagage pour, on a fait des formations pour, on a vécu des choses aussi avec notre autre garçon. On embarque là-dedans toute connaissance de cause, mais même si tu as toute la formation, même si tu as tout le bagage, puis tu es intervenante en plus, ça dépasse l'imagination. Là, dans le fond, la réalité, elle dépasse la fiction. Là.
Donnez-moi des exemples. Donnez-nous des exemples, Geneviève, pour qu'on comprenne comment ça s'est passé.
Des crises, à peu près 7 à 8 crises par jour, qui nécessitent pas des crises où tu amènes l'enfant dans sa chambre là, et tu lui dis reste en retrait. Là, c'est des crises où on doit faire des arrêts d'agir, des contentions pour le maintenir parce qu'il est dangereux pour lui-même et pour les autres. De l'automutilation, donc ça donne des tapes au visage, nous donne des coups de tête, mort, a des propos blasphèmes, je vais vous épargner les détails, violence verbale, plus envers nous, violence verbale aussi envers lui, hyperactivité, plus, c'était une tornade, c'était un enfant qui était en hypervigilance constante, autant la nuit comme le jour, fait que la nuit, il dormait pas, il faisait des terreurs nocturnes, à répétition, 2 à 3 par nuit.
Des terreurs nocturnes, il se mettait à crier, là, il faisait des cauchemars et tout. Et donc, il vous réveillait, donc vous pouvez pas dormir.
C'est en plein ça. Ça a duré au moins un an et demi, je dirais, là, les terreurs nocturnes. Maintenant, il n'en fait plus, là, il a 11 ans, les terreurs nocturnes, c'est derrière nous.
Et à un moment donné, ben, il va vous blesser.
Oui. À un moment donné, il est arrivé un incident, puis j'ai fait l'intervention comme je fais toujours l'intervention habituellement. Puis ce qu'il faut dire, c'est des fois, ben, tu sais, quand ça se passe aux yeux de tout, devant les yeux de tout le monde, ben, c'est sûr, c'est facile, on se fait juger par les autres, les gens, ah, ils sont bien mal élevés, tout et tout. Mais bon, je fais fi de ça, et je fais quand même l'intervention que j'ai à faire, tout en ayant en tête ça. Fait que je fais la contention que je dois faire, puis à un moment donné, il me dit « Ah, c'est correct, maman, tu peux me lâcher, tu peux me lâcher. » Puis j'ai lâché, j'ai baissé ma garde trop vite, en fait, là. Donc, j'ai reçu un coup au front avec un masque de plongée assez robuste et j'ai carrément perdu la carte, là. J'ai eu un trauma crânien, puis là, ben, je me suis ramassée à l'hôpital, puis ça a été comme une succession d'absentéisme, là.
Et les gens de la DPJ qui vous avait encouragé à adopter Lucas, qui était très heureux que vous ayez adopté Lucas, vous avez le sentiment qu'ils vous ont laissé tomber par la suite?
Je me suis sentie abandonnée, dans le fond. Carrément ça, j'ai vraiment le sentiment... je me suis sentie abandonnée carrément, oui.
De quelle manière, dites-moi?
La difficulté à avoir des services.
Et donc, de fil en aiguille, à cause de votre condition médicale, suite notamment au coup que vous aviez reçu, vous avez été, vous vous êtes retrouvé en congé de maladie, vous essayez pendant tout ce temps-là de garder votre garçon, et ça cause des problèmes d'absentéisme notamment, puis à un moment donné, ça se termine par un congédiement. Ça finit comme ça.
Ça a plein ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est, dans le fond, la première année que notre enfant est arrivé avec nous, moi, j'ai recommencé à travailler, vous savez, le RQAP, le congé parental, là, c'est pas beaucoup au niveau de l'adoption. Donc, j'avais pris des congés à mes frais. Par la suite, j'ai recommencé à travailler. Puis, suite à l'épuisement, j'ai eu une bactérie, là, que mon corps n'a pas été capable de surmonter parce que j'étais trop fatiguée, trop épuisée. Ouais. Fait que j'ai comme... tombé en maladie, en fait, par rapport à cette bactérie-là. Et par la suite, bien là, j'ai été en dépression comme environ 6 mois, je crois, 6-7 mois.
Bon.
J'ai recommencé le travail. Ça a bien été jusqu'au trauma crânien. Puis suite au trauma crânien, j'ai été absente 3 mois, je suis revenue. Et là, j'ai refait une tentative, ça n'a pas fonctionné. Je suis partie en dépression majeure pendant un bon bout de temps. J'étais en choc post-traumatique aussi pendant ce laps de temps-là. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prendre ma voiture avec mon enfant parce que j'avais peur qu'il se détache pour venir me frapper. J'avais de la difficulté à être seule avec lui. J'avais une peur constante. Moi aussi, j'étais comme rendue en hypervigilance. Et à un moment donné, j'ai guéri de tout ça. Fort heureusement, ça a été ça a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 2 ans et 5 mois. Mais j'ai été guérie et on m'a signé un retour là, pour retourner au travail. Autant par mon médecin que le médecin de l'employeur.
Sauf que
on a refusé mon retour au travail.
Et on vous a éventuellement congédié.
4 mois plus tard.
Et là, évidemment, on ne pourra pas aller plus loin parce qu'il y a un recours actuellement. Et donc, on ne peut pas aller plus loin là-dedans. Mais moi, ce qui me fascine et ce pourquoi j'ai de l'admiration pour vous, c'est que vous n'avez jamais abandonné Lucas.
Mon mari et moi, on ne voulait pas l'abandonner. tu sais, malgré tout ce qui s'est passé avec Lucas, on a eu beaucoup de difficultés, oui, tu sais, on en a bavé, mais tu sais, on était toujours capable quand même de voir les petits côtés positifs qu'il y avait à l'intérieur de lui. C'est un enfant qui est super attachant, c'est un enfant qui est drôle, c'est un enfant qui est généreux. Oui, tu sais, on mangeait des claques, oui, on se faisait frapper, oui, on se faisait insulter, mais il y avait tout le temps, tu sais, comme un petit quelque chose que j'étais capable de voir à l'intérieur de lui, puis je savais que c'était vraiment relié comme à son passé, tu sais, en Colombie, je savais que c'était relié dans son trouble de l'attachement, que c'était relié à tout ce qu'il avait vécu. Fait que je peux pas, tu sais, on peut pas lui en vouloir, on peut juste, tu sais, comme essayer de l'accompagner là-dedans, puis de l'aider du mieux qu'on peut. Fait que tu sais, je suis pas une héroïne. On a fait ça parce qu'on avait un attachement, parce qu'on l'aime, puis c'est notre enfant.
Et il va mieux, là. Vous pensez que...
Oui.
Vous pensez que il va pouvoir avoir, Lucas, une vie un petit peu heureuse?
Oui, vraiment. C'est un enfant qui n'avait pas d'empathie avant. Excusez-moi, je suis émotive. Je pense que c'est normal.
C'est normal.
C'est un enfant qui n'avait pas d'empathie au tout début. Tu sais, exemple, quand j'ai eu ma commotion cérébrale, ben tu sais, il riait là, lui, il était sur le party. Tu sais, il n'avait pas conscience, tu sais, de ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, puis ça du tout là, c'est un enfant qui est extrêmement empathique. J'ai mal à la tête une journée, il va aller me chercher une débarbouillette, il va la mouiller, il va venir prendre soin de moi, il va prendre soin de mon mari. En fin de semaine, il me dit « Ah, maman, moi, je suis avec vous parce que quand vous allez être des personnes âgées, ben je vais m'occuper de vous. » Tu sais, il est rendu très généreux. Il a vraiment une belle empathie maintenant. Il gère plus sa colère, il est plus en mesure de la contrôler puis d'exprimer aussi ses sentiments. C'est certain que faut pas oublier qu'il y a un trouble dans l'attachement sévère. Fait que Lucas, il peut pas être avec nous à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En ce moment, je ne dis pas que ça va être comme ça jusqu'à ses 18 ans, mais en ce moment, c'est comme ça parce que pour lui, au niveau affectif, c'est trop prenant, c'est trop pour lui. Donc, ça lui prend des pauses affectives pour lui permettre de passer des bons moments avec nous. Puis nous aussi, ça nous prend des pauses parce que c'est un enfant qui est très demandant. Mais là, ça fait 5 semaines qu'on vit comme une famille normale, ce qu'on n'a jamais vécu, là.
Ah. Aucun regret, malgré tout, Geneviève, aucun regret?
Non, on n'a aucun regret. On recommencerait demain matin. Le seul regret, pas un regret, je pense que j'aurais peut-être pas attendu aussi longtemps pour... je pense qu'on a outrepassé nos limites, j'ai dépassé mes limites.
Pour aller chercher de l'aide, pour demander de l'aide?
Oui.
C'est tout un acte d'amour, en tout cas, Geneviève, que vous et votre conjoint avez posé pour le petit Lucas.
C'est vraiment gentil, puis si vous me le permettez, monsieur...
Monsieur Bernard.
Oui. Monsieur Brindin, je sais que vous voulez que je vous appelle Bernard. Je veux juste... tenir avec ça, dans le fond, tu sais, si je vous raconte ça aujourd'hui, puis si j'ai raconté ça aussi à Madame Isabelle Haché, c'est important pour moi de le nommer, c'est parce que tout ce qui se passe dans les réseaux actuellement, là, je trouve que c'est vraiment important qu'on s'attarde davantage aux humains puis aux anges gardiens qui travaillent dans le réseau. Sans eux, la machine, là, elle peut pas fonctionner. Faut qu'on prenne soin d'eux. Faut les préserver. Faut leur démontrer qu'ils sont précieux parce qu'ils sont importants. Ils sont plus importants qu'une statistique. On n'est pas des statistiques, on est des humains.
Le message est passé. Merci Geneviève.
Merci beaucoup.